Oui, étant donné qu'on a enlevé tous les cartons, alors ça résonne beaucoup maintenant. Mais nous ne sommes pas encore dans notre chapelle définitive. Bientôt, ça viendra, mais elle est encore pleine de cartons. Donc, il faut attendre un petit peu encore. C'est, voilà, on vit bien, on est dans une magnifique, dans plusieurs magnifiques maisons, on est content. Et on se réjouit. Enfin, aujourd'hui, on est content parce qu'il pleut. Et quand il pleut, c'est très agréable, ça rafraîchit un petit peu. On est déjà plus que 40 ces derniers jours. C'était, puis alors, on faisait les travaux en plus. Enfin, voilà, c'était rigolo. Voilà, enfin, c'est aussi une façon de faire pour pouvoir perdre un peu de poids, non? Surtout ici, parce que là, on mange bien. Encore à midi, ça va être terrible. Hein, j'ai vu, c'est Mélodie qui a fait les repas. Bon, je vous dis pas. Pâte aux pommes de terre, magnifique. Vous ne connaissez pas les pâtes aux pommes de terre, hein? Ah, c'est ça qui manque à votre vie. C'est une recette auvergnate que j'ai connue grâce à ma belle-mère, Rachel. Et voilà, maintenant régulièrement on en fait. Puis il y aura une autre chose encore après, je ne vous dis pas ce que c'est une tarte au vin. Vous savez pas ce que c'est? C'est une recette suisse. C'est ma mère qui faisait ça. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la fête des grands-mères, puisque on mange que des choses que nos grands-mères nous ont apprises à faire et que les jeunes perpétuent. Et bien, ça serait bien aussi que dans le christianisme, les choses se perpétuent. Vous pensez pas? Mais les bonnes choses, pas les mauvaises. On va voir ça ce matin. On va commencer une série aujourd'hui au sujet justement de l'Église, voilà, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On va commencer par faire une lecture dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Mais je ne l'ai même pas noté. Enfin, je vais retrouver Marc, c'est pas possible. Marc 16, verset 15. C'est Jésus qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de monde qui prêche la bonne nouvelle de la grâce de nos jours. Et on s'en réjouit. Ils disent, et moi aussi, hein, quand je vais en Afrique, j'ai un public à qui il faut parler de l'Évangile, et alors... je leur dis, mais heureusement, je ne leur dis pas que ça, mais je leur dis que Dieu les aime, je dis que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, je leur dis que pour aller au paradis, il faut accepter Jésus comme leur sauveur. Mais la plupart des gens qui se convertissent ainsi, s'ils ne sont pas ensuite instruits correctement, ils ne réalisent pas qu'ils ont accepté... qu'ils ont choisi un évangile très différent de celui qu'annonçait Jésus-Christ et ses apôtres. Prions. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que je sois clair et que les gens qui écoutent puissent comprendre les choses parce que tu ouvres leur et mon intelligence. Père, je te le demande au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que ce message puisse aider à la construction, au rétablissement de toutes choses, et non pas à culpabiliser des gens ou à les rendre malheureux ou dans le trouble. Dans le nom de Jésus, je demande. Amen.
Amen.
Il y a quelqu'un qui m'écrit que mes prédications sont aussi compliquées que les explications, les modes d'emploi de Ikea. Je ne sais pas si vous trouvez... Que... Donc essayez le plus simple possible. Enfin, vous toujours il y en a qui lisent des bêtises, des trucs rigolos, quoi. Enfin, voilà. Je vais être clair. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui révèlent que l'Évangile serait très rapidement corrompu. Pas les Écritures, mais l'interprétation des Écritures. Beaucoup de prophéties annoncent, hein, du temps des prophètes, des apôtres, même Jésus, que le monde serait séduit par un faux évangile, ou du moins par un évangile tronqué, par un évangile tellement simplifié ou tellement modifié, enfin, c'est une fausse bonne nouvelle. La Bible dit que ça va arriver très rapidement après le départ des apôtres. L'apôtre Paul dit, quand je serai parti, il y a des gens qui vont s'introduire. Il y a déjà qui se sont introduits pour dire des choses fausses, mais il y en aura de plus en plus. Donc, on est très au courant de cela, on ne se voile pas la face. Mais les prophètes ont aussi annoncé que le véritable évangile sera restauré, rétabli, juste avant le retour de Jésus-Christ, et ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Ça se voit. Jésus nous parle et nous dit d'être réveillés, d'être en éveil, de ne pas dormir. Malheureusement, il dit aussi par ailleurs que les vierges folles et les vierges sages dorment. Nous, il ne faut pas qu'on dorme, il faut qu'on soit éveillé afin d'être cette voix qui crie « L'époux vient, l'époux vient, faites attention, préparez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se mettre en ordre, il faut que vous ayez ce qu'il faut pour pouvoir partir à sa rencontre. » Alors que chacun de nous ouvre les yeux et que chacun compare l'évangile proclamé par Jésus et par ses apôtres avec celui qui est prêché dans les églises connues aujourd'hui, dans toutes ces sectes, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Ni Jésus ni les apôtres n'ont parcouru le monde, mes frères et sœurs, en demandant aux gens de choisir Jésus-Christ ou de donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, de lever leurs mains ou de se mettre debout à leur place ou de s'avancer devant l'estrade, faire une courte prière de repentance. Vous ne voyez pas ça dans les Écritures. On va lire Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Marc 1, 14 et 15. Après que Jean, donc Jean-Baptiste, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, donc la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? Ben, la bonne nouvelle du fait que le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est ce que Marc nous rapporte de ce que Jésus dit. Jésus annonçait la bonne nouvelle d'un royaume qui allait être établi. C'était une bonne nouvelle, c'était ça la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Matthieu, si vous vous amusez à chercher, vous allez voir que Jésus ne parle que trois fois, seulement trois fois, de sa mort et de sa résurrection. Alors, qu'il parle plus de 30 fois du royaume de Dieu ou du royaume des cieux qui vient. Ça doit faire réfléchir un petit peu. Et c'est presque pareil chez Marc et c'est presque pareil chez Luc. Dans Luc 9, 2, que voit-on ? Alors, je vous le trouve, Luc 9, 2, il est dit. Il les envoya, c'est-à-dire Jésus les envoya, il envoya qui ? Ses apôtres, ses disciples. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Qu'est-ce que Jésus voulait que ses disciples enseignent ? Le royaume de Dieu et aussi qu'il guérisse les malades. Dans Matthieu 5, 10, regardez, Matthieu 5, là, Matthieu, est-ce que je l'ai ? On ne va pas le lire. Vous irez regarder Matthieu 5, 1 à 10. C'est une longue lecture. Qu'est-ce que vous allez voir là-dedans ? Eh bien, que Jésus enseigne que celui qui est converti, c'est-à-dire qui a abandonné sa vieille façon de vivre, de péché, qui est humble, eh bien, le royaume des cieux est à lui. Il n'est pas question là de choisir Jésus-Christ dans votre petit cœur comme sauveur personnel. Vous lirez ça, au verset 3, le royaume des cieux est à eux. Au verset 10, le royaume des cieux est à eux. À qui ? Ben vous verrez. Heureux ceux qui ceci, heureux ceux qui cela. Puis, après sa mort, en croix, on pourrait dire, ben, il ne pouvait pas annoncer la bonne nouvelle du salut par Jésus en croix, puisqu'il n'était pas mort à la croix, il n'était pas encore ressuscité. Mais après qu'il soit mort sur la croix, après qu'il soit ressuscité, il est apparu aux disciples, et le royaume de Dieu est encore son sujet principal. Qu'est-ce qu'on lit dans Actes chapitre 1, verset 3, il dit, après qu'il eut souffert, donc qu'il soit mort sur la croix, il leur apparut vivant, donc ressuscité, et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et vous pourrez lire jusqu'au verset 7, où les disciples posent des questions au sujet de... Mais, parce qu'eux, ils pensent que c'est le royaume de Dieu qui va s'établir en Israël. Ils comprennent tout un peu à l'envers déjà. Hein. Et ensuite, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ces apôtres ont prêché, on peut trouver ça dans Actes 8, 12, je crois. Acte 8, 12, quelque chose comme ça, je pense. Quand ils eurent cru à Philippe, c'est-à-dire les gens ont cru à ce que Philippe disait, ils ont cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc ils prêchaient encore le royaume de Dieu. C'était quoi cette prédication sur le royaume de Dieu? Et quand vous regardez l'apôtre Paul, jusqu'à la fin de son ministère, il continuait à prêcher le royaume de Dieu. Vous trouvez ça dans Acte 28, je vais lire aussi, Acte 28. Ah, j'ai pas mal de références aujourd'hui. Acte 28, verset 28-23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader. Au verset 31, il est dit... Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée, recevait tous ceux qui venaient de voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Dans l'Apocalypse, Jean, puisque c'est Jean qui l'a écrit, dans l'Apocalypse, Jean enseigne que les disciples de Jésus seront des rois, il faut bien dire qu'il y a un royaume, et des sacrificateurs pour Dieu, et que les disciples de Jésus-Christ régneront sur la terre pendant le millénium. Alors, vous lirez ça dans Apocalypse, si vous voulez, on peut le lire, hein, vous êtes là pour étudier. Alors, on peut le lire, Apocalypse 1, 6, il est dit, il a fait de à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, au chapitre 5, verset 10, 5, 10, il est dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Chapitre 20, verset 4, 6, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent, il leur fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front. Et ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et donc, Jésus prêchait un royaume. Et là, il nous est dit, comment ça nous dire un peu, qu'est-ce que c'est ce royaume? Question. Qu'est-il arrivé au message du royaume prêché par Jésus et enseigné aussi par les apôtres? Paul nous avertit dans son discours dans Actes chapitre 20, versets 29 à 31. Actes 20, 29 à 31. Et il nous dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, c'est-à-dire après ma mort, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Pourquoi Paul pleurait-il en enseignant ces choses-là? parce qu'elles étaient de première importance. Et puis vous avez aujourd'hui vos prophètes qui vous parlent, les chrétiens par exemple, qui vous parlent de réincarnation, de je ne sais quoi. Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Paul pleurait en disant, voilà, je vous ai prêché le royaume et il y aura des faux qui vont venir et qui vont prêcher toutes sortes d'autres choses. On est gangréné, l'Église est gangrénée par des faux prophètes, c'est-à-dire des faux porte-paroles de Dieu. Ils apportent une fausse parole, quelque chose de faux. Vous voyez, le véritable évangile, la véritable bonne nouvelle, le mot évangile signifie bonne nouvelle, la véritable bonne nouvelle du royaume a été corrompue dès le premier siècle après Jésus-Christ. Ça a été corrompu. Et ça a été remplacé par un faux évangile truffé d'idées païennes. Mais dès le début. Pourtant, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée aux nations. Dans Matthieu chapitre 24, 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit un jour, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Il dit ça, on trouve ça, cette parole dans l'évangile de Luc chapitre 18 verset 8. Est-ce qu'il trouvera? Ben, je me demande moi, si Jésus revenait aujourd'hui, vous savez que Claudine Yerski a encore re-annoncé le retour de Jésus, c'est là il est moins précis. C'est entre le 15 et le 18 août, n'est-ce pas? Ça se pourrait bien que ce soit le retour de Jésus. Mais si Jésus revient le 15 août, par là autour, est-ce qu'il va reconnaître, je ne crois pas qu'il va reconnaître dans les religions officielles ou pas, son message. Ses prétendus disciples sont en train de se chicaner à coups de doctrine qui sont opposées à ce que lui il enseignait. Je vous rassure tout de suite, hein, Jésus ne reviendra pas le 15 ni le 18 août, hein, c'est pas vrai. C'est... Vous savez, il y a eu environ 50 années de l'histoire de l'Église qui est restée cachée, occultée, apocryphiée. Apocryphe, ça veut dire tenue cachée. Après la mort des apôtres, 50 ans à peu près. Et quand on regarde un peu, qu'on gratouille, qu'on fouille, aux environs de 120 après Jésus-Christ, on trouve les écrits des pères de l'Église. Et leur christianisme diffère beaucoup de celui connu au temps de Pierre et de Paul. Mais vraiment, il reste encore des choses, mais ça diffère, hein. Lisez. Pourtant, Jésus dit que Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On trouve ça dans Hébreux 13, 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et son Église, par contre, pas du tout. Elle n'est pas la même qu'au départ. L'Église qui porte son nom a changé. Elle ne ressemble plus du tout à celle qui a été fondée par Jésus et les apôtres. Je vous en supplie, vous qui avez une Bible, qui m'écoutez là, lisez Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4 et notez sur un carnet tout ce qui ne se fait plus dans votre Église qui est écrit là. Cherchez. Ces choses qui n'existent plus dans vos Églises doivent être rétablies avant le retour de Jésus. Je crois que c'est Actes 3:21 qui dit ça.
Oui.
Vers l'an 405, voilà que les images des saints et des martyrs ont fait leur apparition. Et les gens se sont mis à les adorer. Le culte de la Vierge Marie, que nous aimons de tout notre cœur, nous aimons Marie, nous n'aimons pas la Vierge Marie, nous aimons Marie, parce que une fois que Jésus est né, Marie était mariée avec Joseph, elle a eu des enfants, et elle n'a pas elle ne s'est pas refusée à son mari. Jamais de la vie. Donc, le culte de la Vierge Marie, comme il l'appelle, a pris place, la place du culte qui était fait à Vénus, qui était fait à Diane, Tout ça, c'était fait parce que c'était pour réunifier l'Empire romain qui se déglinguait, n'est-ce pas? Alors, ils ont dit, bon, on va changer les fêtes païennes en fêtes chrétiennes. Alors, Vénus, on la balance, on met Marie à la place. Puis les bons chrétiens d'aujourd'hui, ben, ils croient ça. Ils croient ça. La Sainte Cène est devenue un sacrifice. Chaque fois qu'un prêtre élève la coupe, vous présente l'hostie, il refait le sacrifice de Jésus. Alors qu'il est écrit que Jésus s'est donné une fois pour toutes pour nos péchés. Puisque ils disent que c'est vraiment le corps de Christ qui est là et qu'il le brise et tout, ben il refait le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés de ceux qui sont là. Alors que Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est tout. Cette apostasie massive, et là je brosse juste des petits détails, cette apostasie massive a eu lieu parce que des hommes et des femmes avaient fait marche arrière. Et c'est pourquoi Jésus fait ce reproche au premier âge de l'Église primitive, dans cette prophétie qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, quand Jésus dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ils ont, dès le départ des apôtres, commencé à abandonner leur premier amour, leur amour de la parole de Dieu. Le respect qu'on doit à la parole de Dieu, à la prédication, ils ont tordu le sens. Et Dieu leur a ôté le chandelier. Ils leur ont dit, si tu ne te reprends pas, je vais ôter le chandelier de toi. Et Dieu a ôté le chandelier. Et c'est depuis là que c'est les ténèbres dans l'Église. C'est tout faux. Il a enlevé la lumière parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et ils ont continué dans leur apostasie jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Alors, il y a des églises qui ont retrouvé des vérités, c'est vrai, mais Dieu est en train de rétablir toute chose parce que c'est, comme on dirait en Suisse, un chenille pas possible, c'est-à-dire un fourbi pas possible. C'est du n'importe quoi. Ça n'a plus rien à voir avec la prédication de Jésus et des apôtres, la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Voilà ce qui explique qu'il y a des centaines de dénominations chrétiennes, qu'il y a des sectes, qu'il y a des idées, qu'il y a des traditions, toutes qui se contredisent, qui sont différentes les unes des autres, et voilà. Parce que chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait comme il veut. Et tous réclament du christianisme. Et ils prétendent tous suivre le même Jésus. Mais est-ce qu'ils le suivent? Non, puisqu'ils ne font pas ce qu'il dit. Alors, la question est, est-ce qu'il y a un Dieu réel, finalement? Pourquoi est-ce qu'il ne met pas de l'ordre là-dedans? Et si oui, quel est son plan? Pourquoi il laisse faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a créé des humains en sachant qu'ils allaient mettre le boxon partout? Et que faire pour que le plan de Dieu s'accomplisse? Que nous disent les Écritures à ce sujet? Eh bien, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, il est dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est-à-dire que vous allez chez les catholiques, il faut examiner toutes choses et ne retenir que ce qui est bon. Vous allez chez les protestants, vous faites la même chose. Vous examinez toutes choses, vous retenez ce qui est bon, vous jetez le reste. Vous allez chez les baptistes, faites pareil. Vous allez chez les pentecôtistes, faites pareil. Vous allez chez les branhamistes, faites pareil. Vous allez chez les mormons, faites pareil. Pareil, venez chez moi, faites pareil. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examiner, ça signifie quoi? Ça signifie étudier attentivement, étudier minutieusement. Faites subir un examen à toutes ces choses. Analyser, éplucher, inspecter, ausculter. Voilà ce que ça veut dire, examiner. C'est pas juste lire un verset de la Bible et dire « Amen !» La plupart des gens, ils ont tout bonnement accepté la religion de leurs parents, c'est tout. Ah ben mes ancêtres croyaient ça, je crois ça aussi. Mais ils n'examinaient rien du tout. Or l'Église de Jésus-Christ, c'est une théocratie, c'est un royaume théocratique, avec un roi, c'est Dieu, avec des ministres. Dans Éphésiens 4, 11, 12, nous édissons les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs, pas les docteurs médecins, les docteurs ceux qui enseignent. Et on ne devient pas citoyen du royaume si on veut, si on le choisit, pas du tout. Mais ça, ça choque, hein? Mais c'est vrai. On va lire Jean 6, 44. Je crois que je l'avais noté. 6. Voici, je l'ai. Jean 6, 44. Qu'est-il dit là? C'est Jésus qui parle, il dit « Nul, ça veut dire personne, ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à Jésus comme ça en disant « Je voudrais la nationalité du royaume, de ton royaume. » Non. Si le Père ne t'attire, tu ne peux pas. Tu peux rentrer dans une religion, mais tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu. Et il enfonce le clou, verset 65, il dit, il ajouta, c'est écrit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Ah, je comprends pourquoi l'Église catholique a interdit la lecture de la Bible pendant 400 ans aux fidèles. Parce que ça fout les jetons, ça, ça fait peur. Eux, pour avoir des membres d'église, ils les prennent au berceau, ils les baptisent un petit peu d'eau, floupou. Ça, ils sont membres de l'église. Mais c'est pas comme ça qu'on est, on devient membre du royaume de Dieu. C'est tout faux. Alors je vous demande, où est le libre arbitre là-dedans? La Bible dit que l'homme est esclave du péché dans une dépravation totale et qu'il est incapable de croire. Il est incapable de croire. Il y a des gens qui disent « je ne peux pas croire ça ». Ben oui, ça ne vous a pas été donné. Désolé. L'homme pécheur est incapable de croire à moins que Dieu intervienne pour qu'il puisse croire. On va dire ce que Dieu dit des juifs et des non-juifs. Et ça, ça aussi, ça fait, ça chiffonne les oreilles de plusieurs. Hein. Dans Romains chapitre 3, verset 9-18. Mais je n'aime pas lire ces passages. Romains 3, 9-18. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents que les juifs? Il est en train de taper sur les juifs, quelque chose de bien. Puis après il dit, et nous, vous pensez qu'on est meilleur qu'eux? Ben pas du tout. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Il y en a qui m'écrit, vous seriez étonné de savoir quelle est ma connaissance au sujet des choses dont vous parlez d'une façon aussi légère. Ah bon, ben dis-moi ce que tu sais toi, plutôt que de me dire que tu es intelligent. Montre-moi ton intelligence, montre-moi ton savoir. Ça ne sert à rien que tu me dises que tu en sais plus que moi si tu ne me dis pas ce que tu sais. Nul n'est intelligent, ce que dit la Bible, voilà. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper, et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, une bouche. Là, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, et ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Chaque matin, vous regardez les informations, puis vous allez me dire si la Bible ment. Vous trouvez qu'ils connaissent le chemin de la paix? La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. J'ai prêché sur la crainte de Dieu les deux dernières prédications. Elle n'est pas devant leurs yeux. Ils disent, crainte de Dieu. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres, par vos neuvaines, par les dons que vous faites, ou par les bonnes choses que vous faites. Vous ne serez pas justifié devant Dieu par tout le bien que vous faites, par toutes ces œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. incapable de croire, incapable à moins que Dieu n'intervienne. Dans 2 Corinthiens 4, 3, il est dit que le diable les a aveuglés. Si notre évangile, si notre bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, est encore voilée, cette bonne nouvelle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. J'ai un ami qui m'a dit « Oui, mais Dieu a abandonné son fils, etc. » Non, ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Dieu n'a pas abandonné son fils. Dieu n'a jamais. Dieu est devenu un homme. C'est l'homme qui a été abandonné. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas mort. Jamais. Jésus était Dieu dans un homme. C'est l'homme qui est mort, qui est offert en sacrifice. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ont, le diable les a aveuglés. Alors la question, c'est êtes-vous sauvés? C'est la question la plus dramatique. Êtes-vous sauvé? Jésus étant le sauveur du monde, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde soit sauvé. Ben non. Tout le monde n'est pas sauvé. Ceux qui sont sauvés le savent. Ceux qui sont sauvés le savent. Le Saint-Esprit rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Ceux qui sont sauvés le savent. Ils savent qu'ils ont été choisis sans aucune intervention de leur part. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se glorifier du fait d'avoir cru, parce que même ça, ils ont été incapables, j'étais incapable. C'est Dieu qui m'a donné le pouvoir de croire. C'est ce que la Bible dit. Impossible de devenir à Jésus à moins que Dieu nous attire et nous donne la possibilité de croire. Ceux qui sont sauvés se savent les objets d'un amour absolument immérité de celui qui les a élus dès avant la fondation du monde. Les élus savent qu'ils ont répondu oui à l'appel de Dieu, le roi du royaume. Est-ce que vous avez répondu oui à l'appel du roi? Il y a un royaume céleste. Et ici-bas, nous vivons les prémices de ce royaume. Ce royaume, c'est l'Église. Pas les églises que vous voyez dans le monde. Non, 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 non. L'Église, elle est connue de Jésus seul, et des siens. De personne d'autre. De personne d'autre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il n'y a que Dieu et vous qui savent si vous êtes sauvés. Les sujets du royaume sont dans le processus du rétablissement de toutes choses parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Les élus, les sauvés du temps de Noé étaient dans le processus de la construction de l'arche parce que bientôt le monde allait être détruit par les eaux du déluge. Et de quoi s'occupaient les élus? De la construction de l'arche. De quoi s'occupaient les élus du temps de Moïse? De se tailler d'Égypte. De quoi s'occupent aujourd'hui les élus de Dieu? Du rétablissement de toute chose. Ils participent au rétablissement de toute chose. J'ai mis, il y a quelques semaines, non, mais pour vous montrer l'inconscience, c'est juste pour vous montrer l'inconscience, les gens n'ont pas conscience. J'ai montré quelques photos du Burkina Faso, où on voit des dizaines de personnes qui ont dû quitter le nord du Burkina Faso, qui sont arrivées dans la commune de Nicolas Sabadogo, pour se réfugier, parce que dans leur pays, dans l'endroit où ils étaient dans le nord, des musulmans fanatiques les tuaient. Ils rentraient dans les églises et les tuaient. Et j'ai dit, ces gens en sont partis précipitamment, c'est ce que Nicolas m'a dit, ces gens sont arrivés dans sa commune, dont il est le maire, donc j'ai des informations de première source, vous ne verrez pas ça à la télé, vous n'entendrez pas ça à la radio, mais j'ai des informations de première source, et je vous ai montré les photos, disant, ces gens ont quitté précipitamment leur maison, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de linge, ils n'ont plus de casserole pour faire cuire leurs affaires, ils n'ont plus rien. J'ai fait un appel de dons financiers pour les aider. On a plus de deux, on a presque 2000 membres maintenant sur Révélation Bible Facebook, plus ceux qui viennent sur Révélation Bible, le site. Vous savez combien j'ai eu de dons? 10 euros! 10 euros! Alors avant-hier, j'ai mis une autre photo d'une petite gamine qui pleure. Et alors tous ils disent, mais quelle horreur, mais c'est épouvantable. Mais dire qu'il se passe des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, je voudrais la prendre chez moi, cette petite fille. Oh, il faut absolument faire quelque chose. L'inconscience. Je vous tape un peu ce matin, mais c'est pour vous réveiller parce que vous dormez. Vous dormez. Les vierges sages dorment et les vierges folles dorment. Peut-être que vous êtes des vierges sages, mais vous êtes en train de roupiller. Vous n'avez absolument pas conscience de ce qui se passe et de ce qu'il y a à faire. C'est grave. Bon, les gens là-bas au Burkina, ils sont toujours dans la même situation. Moi, j'aurais envoyé 2000 euros. C'est tout ce que je pouvais faire. Ça me fait mal au cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'adressait aux gens avec larmes, parce que c'était difficile pour eux, pour lui, de voir tous ces gens qui venaient louer Dieu, adorer Dieu et tout, et puis qui ne faisaient pas partie du royaume, c'est-à-dire de quelque chose d'organisé, dont Dieu est le Père, dont les ministres ont une autorité, et c'est une théocratie, les sujets obéissent, font la volonté de Dieu, celle qui leur est transmise par les ministres. Non, il est obligé de pleurer pour leur expliquer, leur faire comprendre. Et c'est la même chose aujourd'hui, sinon pire. Les gens se contentent, n'est-ce pas, d'une religion cloisonnée par des doctrines, par des dogmes. Les chrétiens de nom ont des doctrines. Vous savez ce que c'est, ces doctrines? Je vais vous dire ce que c'est. Tu peux me suivre avec la caméra, là? Une doctrine, c'est comme une vitre. Ça vous permet de voir la vérité, mais vous ne pouvez pas la toucher. Vous la voyez, mais vous ne pouvez pas la toucher. Vous empêchez de toucher. Voilà ce que c'est une doctrine. Les doctrines, c'est comme des vitres qui vous permettent de voir ce qui est vrai, de voir ce qui est à faire, mais qui vous empêchent de faire, qui vous empêchent d'atteindre ce que vous voyez. Chaque fois que vous voyez une vérité, vous vous cognez contre la vitre, contre vos doctrines, contre vos dogmes, contre vos traditions. Vous ne voulez pas y renoncer. Vous croyez plus dans votre doctrine que dans la vérité qui se trouve derrière. Vous ne voulez pas casser vos doctrines, vos vitres. Frères et sœurs, je ne cherche pas à vous troubler. Je veux que la vérité soit connue. Et tant pis si vous ne m'aimez plus. Alors là, tant pis. Dimanche prochain, je continuerai cet enseignement et ceux qui veulent et qui aiment la vérité viendront écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de travailler le cœur de chacun, qui se rende compte un petit peu, qui se réveille. Au nom de Jésus, telle est ma prière. Amen. Amen. Au revoir.